journal Loïc Barrière. La date du début du Ramadan sera annoncée officiellement ce soir à la Grande Mosquée de Paris. En Tunisie, Rached Ranouchi convoqué par la justice suite à la réunion du Parlement qui a été depuis dissous par le président Saïed. Le chef du parti Etakatol Khalil Lezaouia réclame des élections législatives anticipées en Tunisie après la dissolution du Parlement. Un Palestinien tué par les forces israéliennes à Hébron, en Cisjordanie occupée. En France, fin de la trêve hivernale, de nombreux locataires craignent d'être expulsés. Enfin, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants a rendu ses conclusions intermédiaires. Elle formule plusieurs recommandations. Son coprésident, le juge des enfants Édouard Durand, sera l'un de nos invités. Comme chaque année, c'est à la Grande Mosquée de Paris que sera annoncé ce soir le début du mois de Ramadan. La coordination composée de 4 fédérations musulmanes se réunit pour écouter les conclusions de sa commission théologique. En attendant de connaître la date exacte du début du jeûne, la coordination invite les musulmans de France à se préparer spirituellement au Ramadan dans l'unité, le partage et la solidarité. Vous pourrez suivre, comme d'habitude, l'annonce du Ramadan en direct sur Radio Orient. En Tunisie, le président du Parlement dissous, Rached Ranouchi, a été convoqué par la justice pour complot contre la sûreté de l'État. La justice reproche au chef des Nahda la tenue d'une séance plénière malgré le gel de la Chambre depuis fin juillet par le chef de l'État. Et après la dissolution du Parlement tunisien, le président du parti Etakatol, Khalid Ezaouia, réclame des élections libres et anticipées. On l'écoute.
Cette décision de dissoudre l'Assemblée est un pas de plus vers une aggravation de la crise politique en Tunisie, qui est devenue inextricable. Tout le processus du 25 juillet est tombé à l'eau, puisque le principe des mesures exceptionnelles, c'était de garder l'Assemblée. Et donc, lorsqu'il l'a dissous, en considérant que c'était elle le danger suprême, donc c'est en principe toute la procédure légalement, d'après la Constitution, à laquelle il s'est référé, l'article 112, devrait aboutir à des élections au maximum dans les 3 mois qui viennent. Or, il ne semble pas que ce soit ça le fait. Le président a dissous l'Assemblée et continue dans son agenda qu'il a préparé et les élections sont reportées au 17 décembre. Donc, de fait, aujourd'hui, nous avons un président qui détient tous les pouvoirs exécutifs, bien sûr, législatifs, bien sûr, et même judiciaire, puisqu'il a dissous le conseil judiciaire et il a nommé un conseil provisoire avec des prérogatives où il a toute la main mise dessus. Donc il a des prérogatives de refus et de décider comment gérer la justice actuellement. Donc, nous sommes dans une situation de pouvoir absolu, personnel, et avec une crise politique qui aggrave la situation financière du pays qui est au bord du gouffre. Puisque les négociations avec le FMI pour financer le budget de cette année n'avancent pas beaucoup et semblent être tributaires d'un accord politique. Donc nous allons au-devant de jours difficiles en Tunisie et le président de la République assume une responsabilité majeure dans la situation actuelle.
Et vous demandez la tenue d'élections législatives anticipées dans les 3 mois ?
C'est la logique. Il s'est contredit en 48 heures. Il y a 3 jours, il a dit en public à la télévision: je ne peux pas dissoudre l'Assemblée parce que la Constitution ne le permet pas. 48 heures après, il a dit « la Constitution m'autorise à dissoudre l'Assemblée ». Donc il interprète la Constitution selon ses propres desiderata. Et ça, ce n'est plus un état de droit. Donc nous sommes devant un pouvoir absolu qui fait ce qu'il entend. Et il y a les députés qui ont assisté à cette réunion non présentiel, c'est une réunion non présentielle, il y a 35 députés, semble-t-il, qui ont été convoqués devant le pôle antiterroriste.
Ces députés demain, qui avaient organisé mercredi dernier cette séance virtuelle.
Oui. Ce dont on est sûr, c'est qu'il y a 5 noms, mais il semblerait qu'il y en a beaucoup plus. De toute façon, même si c'est une personne, c'est déjà gravissime que les gens soient accusés d'atteinte à la sûreté de l'État et bouqués devant le pôle antiterroriste. Ce n'est pas un acte terroriste quand même. Donc voilà, nous vivons une situation très difficile et inextricable. Et la logique veut que le président de la République annonce des élections à court terme avec une révision de la loi électorale rapidement, ce qui peut se faire rapidement, en 15 jours. Une loi, on a déjà une loi, donc il suffit de la réviser de manière consensuelle. Ou bien, s'il veut prolonger dans son agenda jusqu'au mois de décembre prochain, les élections, il les avait prévues au mois de décembre, 17 décembre, avec d'abord un référendum le 25 juillet sur la réforme des textes, je ne sais pas quel texte, on ne sait pas quel texte il veut changer, et le référendum concerne, est-ce qu'il concerne la Constitution, ou est-ce qu'il concerne uniquement les textes qui gèrent la vie politique, c'est-à-dire la loi électorale, la loi sur les partis, et les financements, et les médias, ainsi de suite, on n'en sait rien. Tout ça se passe à Carthage, et on n'a aucune idée, le peuple n'a aucune idée. Ou bien il ouvre un débat national, avec un processus de débat, où tous les partis, toutes les organisations nationales y participent, et comme ça, les gens pourraient accepter qu'il y ait un processus de révision de la vie politique en Tunisie, et pourquoi pas même de la Constitution en ce qui concerne la répartition des pouvoirs et la place du président de la République, pourquoi pas. Mais comme ça, on va devant une inconnue, et la situation ni politique, ni économique, ni sociale ne le permet. On a des pénurie de produits alimentaires. Ça a commencé avant la guerre de l'Ukraine. Ça va s'aggraver encore plus avec le début du mois de Ramadan. Nous sommes dans une situation très, très difficile.
Le président d'État Catholique Khalil Ezzaouia au micro de François-Xavier de Calonne. Et puis l'ONU et les États-Unis expriment leur inquiétude face à la décision du président Saïed de dissoudre le Parlement. Le département d'État américain se dit notamment préoccupé par les informations évoquant l'intention des autorités tunisiennes de prendre des mesures légales contre des députés. Un Palestinien a été tué ce vendredi par des tirs des forces israéliennes à Hébron, dans le sud de la Cisjordanie occupée. Il était âgé de 29 ans, il a été touché par des balles réelles. Les incidents se multiplient entre les forces israéliennes et les Palestiniens depuis quelques jours. Jeudi, deux Palestiniens ont été tués lors d'une opération de l'armée israélienne à Jenin. Le Conseil de sécurité de l'ONU a créé une nouvelle force de paix contre les Chebab, le principal groupe djihadiste de Somalie. L'ATMIS, la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, va remplacer l'actuel AMISOM. Actuellement, 20 000 militaires, policiers et civils sont déployés sur le terrain, des effectifs qui vont se retirer progressivement jusqu'à 2024. En ce 1er avril, c'est la fin de la trêve hivernale en France. Cela signifie que les locataires peuvent être expulsés de leur logement, notamment s'ils ont des impayés de loyer. C'est la première fois depuis la crise sanitaire que la trêve n'est pas prolongée. Les associations redoutent de voir de nombreuses expulsions dans les semaines et les mois qui viennent. Le Covid continue de progresser à l'école. Au total, 88 722 cas ont été confirmés chez les élèves contre 81 424 la semaine dernière. Et puis la France a scolarisé plus de 6 800 enfants ukrainiens. C'est ce qu'annonce également le ministère de l'Éducation. La plupart de ces enfants ukrainiens vivent dans les académies de Nice et de Versailles. 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année en France. La commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants a rendu ses conclusions intermédiaires. Elle formule plusieurs recommandations. Entretien avec son coprésident, le juge des enfants Édouard Durand. Il répond à François-Xavier de Calonne.
Le sujet que nous devons traiter, ce sont toutes les violences sexuelles faites aux enfants, notamment l'inceste. Mais la CIVIS est aussi une commission tout à fait particulière unique en son genre en réalité, puisque nous avons compris, dès que nous avons lancé l'appel à témoignage le 21 septembre 2021, que notre vocation était de recueillir la parole des femmes et des hommes qui ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance. Et en quelques mois, nous avons reçu plus de 11 000 témoignages. Nous sommes donc devenus un espace de rassemblement, un espace de solidarité entre les victimes et un espace où la société les reconnaît et reconnaît leurs paroles, où la société leur dit « c'est donc tout cela ce que vous avez vécu. Vous avez vécu toutes ces souffrances à ce point ».
Cet espace de solidarité entre les victimes, cette solidarité, comment se traduit-elle ?
Elle se traduit d'une manière très expressive et je dois dire magnifique, qui m'impressionne toujours beaucoup, qui me touche, notamment dans nos réunions publiques. Chaque mois, nous nous déplaçons dans une ville de France et nous organisons une réunion publique où s'inscrivent des personnes, des femmes, mais aussi des hommes. Et ces personnes sont 100, 150, 200 personnes, comme au Palais de la Femme il y a quelques jours à Paris. Et pendant 2 heures, le micro passe de main en main dans une grande bienveillance, une grande écoute et une grande solidarité. C'est très fort. Et lorsque nous avons lancé l'appel à témoignage, il y a 6 mois maintenant, beaucoup de personnes ont dit, dans les premières heures de cet appel, « J'ai attendu ce moment toute ma vie ».
Et vous avez donc rendu vos conclusions intermédiaires. Est-ce que vous pouvez nous faire part des différentes préconisations et des différents axes ?
Nous avons 4 axes fondamentaux dans notre travail, qui sont le repérage des enfants victimes, le traitement judiciaire des violences sexuelles, la réparation incluant le soin et la prévention. Le repérage avant la prévention, parce que malheureusement nous vivons dans un monde où des enfants sont victimes de viols et d'agressions sexuelles. La priorité, c'est d'aller les chercher pour les mettre en sécurité. Et dans ces 4 axes, nous avons défini des préconisations qui sont réalistes, réalisables, et qui vont générer plus de sécurité pour les enfants. Et je peux en dire quelques-unes ici. D'abord, le repérage systématique, parce que l'agresseur impose le secret à l'enfant. Il lui dit « si tu parles, je vais te tuer. Si tu parles, personne ne te croira. Si tu parles, la famille va exploser ». Et donc, nous ne pouvons plus attendre que l'enfant devienne un adulte et révèle les violences qu'il a subies. Il faut aller chercher sa parole pour le protéger. C'est le repérage systématique. Tout professionnel, une institutrice, un professeur, une psychologue, une éducatrice, tout professionnel doit poser à tous les enfants la question des violences subies. Et puis nous préconisons aussi l'obligation de signalement pour les médecins, parce que lorsque on pense qu'un enfant est victime ou qu'il peut être victime de violences sexuelles, il faut le protéger. Il faut signaler la situation au procureur pour mettre en œuvre les mesures de protection. Voilà 2 préconisations très précises qui sont très importantes pour augmenter notre capacité de protection.
Vous avez été surpris par l'ampleur des témoignages. Vous évoquez plus de 11 000 témoignages en quelques mois.
Oui, ce qui est très important lorsqu'on écoute ces témoignages et lorsque l'on comprend que la société a conscience de la réalité de la vie des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles, c'est l'ampleur de ces violences. Et l'ampleur, c'est toujours 2 choses. C'est le nombre et c'est la gravité. C'est-à-dire que 5,5 millions de personnes dans la population adulte en France ont été victimes de violences sexuelles dans l'enfance. C'est un nombre extrêmement important. C'est-à-dire aussi que ces personnes nous parlent d'un présent perpétuel de la souffrance. Non pas d'un mauvais souvenir, mais d'un présent perpétuel. D'une souffrance physique et psychique qui est toujours contemporaine, qui habite leur vie. Et pour cela, l'une de nos préconisations est que tous les enfants victimes, et y compris les adultes qu'ils deviennent, bénéficient de soins spécialisés en psychotrauma. Car ces soins existent et ils permettent d'apaiser les souffrances.
Et vous soulignez que 9 victimes sur 10 sont aujourd'hui des filles.
Oui, les violences sexuelles sont une forme de violence sexuée. Comme le dit la Convention d'Istanbul, les violences domestiques affectent de manière disproportionnée les femmes et les filles. Et les viols, les agressions sexuelles sont commis massivement par des hommes contre des femmes. Lorsque les victimes sont des enfants, la proportion de garçons est plus importante que la proportion d'hommes victimes à l'âge adulte. Mais cela reste des violences sexuées.
Et les enfants en situation de handicap sont plus vulnérables également ?
Oui, oui. Vous savez, dans la stratégie de l'agresseur, il y a toujours une première étape qui est rechercher sa proie en raison de sa vulnérabilité. L'enfant est particulièrement vulnérable et les enfants handicapés sont plus vulnérables encore, plus fragiles, plus en difficulté pour exprimer leurs paroles et leurs émotions. Et dans la situation des enfants handicapés, il y a un problème supplémentaire auquel la Civise attache une grande importance et qu'elle veut résoudre, c'est le fait qu'il y a un déni supplémentaire encore. Une incapacité plus grande encore de la société à penser la réalité des violences sexuelles faites aux enfants handicapés et la nécessité de les protéger. Donc il y a à la fois une survictimation et une sursilenciation.
Et vous évoquez le profil des agresseurs, c'est la plupart du temps une personne qui semble être au-dessus de tout soupçon.
Oui, les violences sexuelles sont commises par des agresseurs qui viennent de tous les milieux, de tous les contextes sociaux, culturels, et qui ont toujours une stratégie que l'on retrouve dans tous les récits des témoignages des victimes. Il recherche sa proie, il l'isole, il crée un climat de peur et de terreur, il passe à l'acte, il inverse la culpabilité, il impose le silence, il recherche des alliés pour assurer son impunité, quel que soit le milieu dans lequel il vit. Et il y a toujours un rapport de domination. La violence sexuelle, comme toute violence, est toujours le refus de la relation. La violence, c'est toujours s'approprier le corps de l'autre et faire du corps de l'autre un objet.
Et vous offrez donc la possibilité aux victimes de briser ce silence. Cela se poursuit bien entendu avec différents numéros de téléphone pour permettre cela.
Oui, jusqu'au dernier jour de la commission, nous serons disponibles pour toute personne adulte qui voudrait nous confier son témoignage. C'est notre mission. Et nous respectons tellement cette parole que nous nous appuyons sur elle pour préconiser des politiques publiques de protection, parce que chaque personne qui nous fait confiance et qui nous donne son témoignage nous dit toujours « je le fais pour moi, j'en ai besoin, mais je le fais aussi pour que les enfants ne vivent pas ce que j'ai vécu ».
C'était le juge des enfants, Édouard Durand, coprésident de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Son dernier ouvrage, « Défendre les enfants, la mission d'un juge » aux éditions du Seuil. Les victimes de violences sexuelles pendant l'enfance peuvent témoigner en appelant du lundi au vendredi de 10h à 19h le 0805 802 804 en métropole et le 0800 100 811 depuis l'outre-mer. Cette édition est terminée. L'invité de Pluriel ce soir est Bali Bagayoko, chef de file de la France Insoumise à Saint-Denis. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de Radio Orient.